You say you wanna be a star, but the city is so dense and low. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Géopolitique, le seul podcast d'actualité et de géopolitique.
Vous pouvez l'écouter tous les lundis matins à 9h sur toutes les plateformes.
Et puis au programme, idées, enjeux, nouveaux débats sur tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, avec deux chroniques spéciales, une plutôt axée sur la défense et une autre sur le Grand Moyen-Orient.
Nous vous souhaitons une très bonne écoute et nous vous remercions de votre fidélité.
C'est tout de suite parti pour Le Géopolitique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du Géopolitique, la troisième. Et la grande nouveauté de cette nouvelle saison, eh bien, c'est que je ne suis plus tout seul autour de cette table, et ça c'est grâce à vous, alors je vous remercie de nous être aussi fidèles. La première personne donc qui m'accompagne, elle se trouve juste à côté de moi.
Tout à fait, je me présente, c'est Manon, la nouvelle co-présentatrice du Géopolitique aux côtés de Gauthier. En effet, cette saison, le Géopolitique se transforme, pour votre plus grand plaisir, et je ne suis pas seule, n'est-ce pas Gauthier ?
Effectivement, d'autres personnes nous accompagnent, ce sont des chroniqueurs qui, comme leur nom l'indique, eh bien, vont animer des chroniques. Et la première, elle est en face de Manon, c'est la mienne.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous donner rendez-vous maintenant tous les lundis matins pour discuter puis débattre de l'actualité sur une région qui s'appelle le Grand Moyen-Orient, qui s'étend du Sahel au Pakistan, et d'ouvrir, si j'y arrive, vos perspectives sur cet endroit qu'on appelle parfois aujourd'hui la poudrière mondiale.
Je souhaite la bienvenue à notre second chroniqueur, qui cette fois-ci est en face de moi, Antoine, bonjour.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous présenter ma chronique Hard Power qui aura donc lieu tous les lundis matins. Elle parlera donc de défense, de sécurité, avec notamment l'objectif d'aller observer les armées nationales, mais également les alliances comme l'OTAN, les questions de sécurité intérieure, notamment à la France avec le terrorisme. Au programme du jour, entre 2024 et horizon lointain, l'armée américaine à la croisée des chemins.
Alors ça c'est bien dit Antoine, bravo. On tenait aussi à vous présenter les coulisses de notre géopolitique. Effectivement, l'équipe s'agrandit, mais pas seulement autour de la table. Il va aussi y avoir des gens autour qui vont nous aider à vous proposer les meilleures émissions possibles. La première personne, eh bien, c'est le monteur de notre émission. Il se trouve juste à côté de moi.
Bonjour, je suis Léonard, je suis le monteur. Alors moi, on m'entendra pas beaucoup dans ce podcast, mais ce que l'on aimerait un peu plus entendre cette année, c'est vous, et vous pouvez participer dans l'onglet Communauté.
Léonard, tu n'es pas seul cette saison à être dans le background du podcast, puisque nous avons également deux secrétaires, n'est-ce pas ?
Tout à fait Manon, donc bonjour, on se présente.
Je suis Anna.
Et moi c'est Émilie, et nous nous chargeons toutes les deux des relations extérieures, ainsi que de la communication de ce podcast.
Nous vous préparons d'ailleurs pour prochainement un format interview, alors n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes où ce podcast est disponible. Apple Podcast, Deezer, mais aussi Spotify, et plus récemment Instagram sous le nom Le Géopolitique.
Et donc Lamia, aujourd'hui, de quoi on va parler ?
Eh bien aujourd'hui, on va parler du renouvellement des relations diplomatiques et économiques de l'Arabie Saoudite qui vont changer de pôle des États-Unis vers la Chine.
Merci beaucoup. Alors, rappelez-vous, lors de la seconde saison du Géopolitique, il y avait déjà eu une grande nouveauté, c'était les épisodes reportages que vous avez fortement appréciés. Vous nous avez propulsé 6e émission d'Europe. Alors, encore une fois, on vous remercie. Bref, les reportages vont continuer avec un journaliste qui, lui aussi, va participer à nos rangées en enregistrement. Romain, bonjour.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, les reportages continuent en 2023 et continueront en 2024. Rendez-vous d'ici peu pour discuter de sujets géopolitiques au départ de l'échelle locale, car oui, la géopolitique n'est pas qu'une affaire mondiale.
Et au programme du jour, le sujet c'est le populisme sous toutes ses formes. Nous étudierons notamment l'élection américaine à venir en 2024, mais également l'éco-populisme.
Le Géopolitique, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Je vous laisse monter le volume, surtout détendez-vous, et nous allons vous expliquer un petit peu le monde qui vous entoure. Le premier sujet de notre saison 3 du Géopolitique, les élections présidentielles américaines 2024 sous le prisme du populisme. On le rappelle, le sujet de notre émission du jour, le populisme des élections présidentielles américaines à l'écologie, est-ce que c'est le mal du siècle ? Pour aborder ce sujet, nous allons traiter la problématique suivante, comment le populisme semble être une recette qui fonctionne de plus en plus aux États-Unis et de manière de plus en plus virulente. Pour cela, on va s'intéresser à un monsieur en particulier. Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Vivek Ramaswamy. Donc effectivement, c'est un petit peu dur à prononcer, mais c'est très intéressant de s'intéresser à lui au niveau du populisme, puisque Vivek Ramaswamy, qui est-ce ? C'est l'outsider des candidats républicains pour cette élection américaine 2024. Donc c'est le principal rival depuis quelques semaines de Donald Trump. Mais qui est-ce ? Il a 38 ans, il est diplômé de Harvard et de Yale, et il est millionnaire. Il représente le rêve américain, puisqu'il est fils d'immigrés indiens, qui a complètement réussi aux États-Unis. Il est très attaché à la religion, malgré le fait que ce soit, qu'il soit de confession hindoue, ce qui peut provoquer des récalcitrances de la part des républicains, mais finalement pas tant que ça, donc c'est déjà un exploit de la part de ce candidat. Il est qualifié de très prometteur, et il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris jusqu'à présent. Il a même réussi grâce à sa fortune à se hisser au rang de numéro 2, numéro 3 en face de Donald Trump. C'est assez impressionnant.
Effectivement, il plaît plutôt bien aux électeurs républicains, mais il faut savoir pourquoi on le considère comme un populiste. Et pour cela, il y a trois caractéristiques majeures qui définissent un populiste. De manière générale, un populiste est une personne qui est révoltée contre le système en place. Et puis, en plus de cela, il s'attaque généralement aux grands partis en place. Et c'est sur cela qu'on va pouvoir discuter autour de Vivek Ramaswamy. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui est contre l'élitisme. Il est donc en opposition aux médias traditionnels, au cursus académique. Et si on se place en Europe, de manière générale, les politiciens populistes sont en contradiction avec l'Union européenne. Est-ce que quelqu'un a rajouté quelque chose ici ?
Bon, peut-être pour résumer un peu tout ce que tu as dit, Gauthier, on pourrait simplement dire qu'un populiste cherche finalement, quel que soit son parti politique, à brosser le peuple dans le sens du poil.
Ce qui est intéressant, c'est que cet outsider a crevé l'écran face à tous ses rivaux républicains au débat sans qu'il y ait Donald Trump. Et donc, on peut se poser la question, bien sûr, est-ce qu'il arrivera à récupérer les électeurs de Donald Trump, sachant que les révoltés contre le système se sont très bien vus dans l'attaque du Capitole. Et donc, par conséquent, est-ce qu'il arrivera à récupérer cet électorat de Donald Trump ? Là est tout l'enjeu, en tout cas pour lui, même s'il a crevé l'écran face aux autres adversaires républicains.
Donald Trump a quand même une avance assez considérable dans cette élection, et mais néanmoins c'est une bonne question, puisque Vivek Ramaswamy a doublé le principal rival de Donald Trump, qui était avant Ron DeSantis.
Alors pour s'intéresser aux chances de Vivek Ramaswamy, concrètement, on va essayer de discuter autour d'un article qui a été écrit par la rédaction de France 24. Vous avez le lien en description de cet épisode. Manon, qu'est-ce qu'il nous explique, qu'est-ce qu'il nous raconte cet article ?
Eh bien, il nous raconte ce dont on a déjà parlé autour mais de la façon dont Vivek Ramaswamy a crevé l'écran face donc à notamment à Ron DeSantis, et à la façon dont effectivement on peut relier Vivek Ramaswamy à ce populisme.
C'est bien dit, c'est bien résumé. Un autre article qui va nous intéresser, que vous avez encore une fois en description, cette fois-ci rédigé par le journal anglais The Guardian. Cet article-là va plus discuter des conséquences géopolitiques sur les relations internationales du potentiel élection de Vivek Ramaswamy.
Bien sûr, il y a un enjeu en tout cas géopolitique derrière cette élection des républicains, parce qu'on voit bien qu'il y a une échelle de gradation dans le populisme et une radicalité en tout cas de ce candidat. Et donc par conséquent, dans un monde qui semble s'embraser, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans ma chronique, dans un monde qui semble s'embraser, les républicains, est-ce qu'ils vont faire catiser justement cet incendie qui couvre ? On le voit au Moyen-Orient, on le voit dans le conflit avec la guerre en Russie. Ou est-ce que justement ils seront capables de faire preuve d'une diplomatie ? Les Américains ont une diplomatie excellente. Et donc par conséquent, et c'est vrai qu'il y a un grand enjeu géopolitique derrière cette élection des républicains, l'élection américaine, mais l'élection des républicains d'abord.
Alors bon, Antoine, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que c'était le candidat typique des républicains. Il faut quand même rappeler que candidat typique, certes, mais il a certaines particularités, si je puis dire, qui le différencient quand même de Donald Trump notamment. Et le fait qu'il soit de religion hindoue, justement, ça va potentiellement à l'encontre d'un électorat évangéliste aux États-Unis, qui quand même reste très attaché à ses valeurs plutôt traditionnelles.
C'est effectivement vrai, mais cependant, il faut néanmoins relever qu'il est quand même très, malgré le fait qu'il soit de confession hindoue, il est quand même très fidèle à la religion, et c'est quelque chose qui peut porter ses fruits auprès des républicains.
Les principales perspectives ont été tirées autour de Vivek Ramaswamy. Est-ce qu'on peut considérer que le leadership américain sur la scène internationale pourrait être handicapé si jamais Vivek Ramaswamy accédait au pouvoir en 2024 ?
On a bien vu qu'avec Donald Trump, il y avait certaines tensions qui avaient émergé avec certains pays. s'il se met en tout cas dans cette continuité de Donald Trump, bien sûr qu'il y aura des dangers, même avec la France, même avec l'Europe, on l'avait vu dans les taxations de divers produits. Donc finalement, Vivek Ramaswamy, ce sera finalement sans doute la continuité d'une politique de Trump. De toute façon, on voit bien qu'ils sont à peu près dans l'équivalence. Hein. Trump était un radical, c'est un radical, c'était un anti-woke, c'est un anti-woke. Donc finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'entre Donald Trump et ce nouveau candidat qui commence à crever l'écran, il y aura vraiment de réelles différences à part le nom.
Et puis, bon, j'aimerais quand même rappeler que si on parle de notre politique nationale, le président Emmanuel Macron n'a eu aucun mal à avoir des rencontres diplomatiques avec certains dirigeants qu'on pouvait qualifier de populistes, même d'extrémistes, notamment Giorgia Meloni en Italie, qu'on a beaucoup décrié lors de son arrivée au pouvoir, mais qui finalement semble plutôt très bien s'entendre avec notre président.
Néanmoins, ce dont on peut parler aussi, c'est des répercussions internationales que pourrait avoir l'élection de Vivek Ramaswamy, puisqu'il a annoncé que si jamais il devenait président, il refuserait l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et qu'il serait en faveur des Russes pour cette guerre ukraino-russe.
Oui, effectivement, il y aurait une certaine rupture avec la politique menée par Joe Biden qui était en train de réparer les quelques erreurs qu'a commis Donald Trump. On en a parlé notamment avec les accords de Paris. Et donc, si ce clivage est de retour, forcément, ça va poser quelques problèmes. Un dernier point que nous avons abordé quant à Vivek Ramaswamy, on va faire un petit lien avec ce qui peut se passer en Chine, l'hégémonie chinoise qui pourrait peut-être être arrangée de l'élection de Vivek Ramaswamy. Effectivement, est-ce qu'on peut supposer que si les États-Unis sont dans le mal, avec un isolement international, une élection, ça pourrait profiter à d'autres puissances. On parle de la Chine, mais on pourrait parler de l'Inde, du Brésil, de Lula, qui a été récemment élu.
Personnellement, je pense pas, parce que finalement, on voit bien que de toute façon, Donald Trump veut s'opposer à l'hégémonie chinoise. Il veut s'opposer dans ce conflit, par exemple, qui semble en tout cas commencer à couver entre Taïwan et la Chine. On voit bien que Donald Trump a très vite pris la défense de Taïwan. Par conséquent, je pense que sur le dossier chinois, un candidat républicain s'inscrira dans la tradition de l'opposition à la Chine. On voit bien que de toute façon, c'est le nouveau point de bascule. Le monde, il a basculé dans cette nouvelle guerre froide, hein, qui auparavant, bien sûr, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, était une opposition entre l'URSS et les USA. Aujourd'hui, on voit bien que c'est la Chine et les USA. Donc, par conséquent, peu importe, je pense, le président, de toute façon, ce nouveau conflit est installé. Et finalement, peu importe que ce soit un candidat républicain ou un candidat démocrate, l'opposition à la Chine, elle est bien réelle.
C'est surtout que c'est finalement une guerre commerciale qui dépend, je pense, davantage finalement de ces enjeux économiques et financiers que d'une politique qui serait potentiellement menée par ce nouveau candidat. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, Antoine.
Tout le monde est d'accord, c'est formidable. On va pouvoir aborder un autre point, le dernier point quant à Vivek Ramaswamy, par rapport à la stabilité internationale que son élection pourrait éventuellement dégrader, avec notamment l'Organisation des Nations Unies. Est-ce qu'avoir Vivek Ramaswamy discuter devant 152 nations, voire plus, ça peut poser des dangers, notamment avec ce qui se passe actuellement en Europe et la guerre entre la Russie et l'Ukraine?
Manon l'a très bien résumé tout à l'heure, puisqu'elle disait effectivement que si un candidat républicain, en l'occurrence Vivek Ramaswamy, venait être élu, il prendrait position plutôt pour la Russie. Par conséquent, on voit bien qu'aux Nations Unies, il y aurait une opposition franche, claire. Donc bien sûr, ça peut avoir son importance, surtout que les États-Unis, vous n'êtes pas sans le savoir, a une place fixe au Conseil de sécurité de l'ONU, par conséquent un droit de veto, et donc elle pourrait peut-être baisser ses aides à l'Ukraine, etc. Et tout cela débattu au Conseil de sécurité de l'ONU, plus généralement dans l'instance de l'ONU, et donc bien sûr il pourrait y avoir un enjeu majeur derrière cette élection républicaine globale.
Mais Antoine, donc tu évoques le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'on pourrait craindre aussi c'est potentiellement une alliance entre les États-Unis et la Russie, puisque ces deux États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont un droit de veto, et ça pourrait effectivement être potentiellement problématique pour les années à venir.
La Chine aussi. La Chine qui pour l'instant finalement condamne à demi-mot l'invasion russe en Ukraine, donc par conséquent effectivement on pourrait même peut-être avoir un trio qui se dégage. Bon, ce sont que des suppositions pour l'instant, hein, rien n'est joué. Les alliances, hein, on sait que c'est très movible, mais effectivement on a ce trio là qui pourrait être très particulier, très instable finalement. Ça va créer de l'instabilité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, ça c'est certain. Imaginez Vladimir Poutine assis aux côtés de Vivek Ramaswamy et de Xi Jinping, c'est un trio qu'on pourrait presque qualifier d'infernal. Hein.
D'abord, moi j'aimerais rappeler que Donald Trump a bien été élu à la présidence des États-Unis, et même si ça nous a beaucoup surpris en tant qu'Européens occidentaux et même Français, ça n'a pas non plus changé la face du monde, je dirais.
Après, on peut tout de même pas oublier quand même que Donald Trump il y a eu une intensification des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis. Moi, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'on pourrait imaginer, en tout cas assis à la même table, trois dirigeants infernaux, pourrait-on dire, entre Xi Jinping, Vivek Ramaswamy, et plus Vladimir Poutine. On pourrait imaginer trois acteurs mondiaux de taille, représentant des pays conséquents, des puissances internationales, assis à la même table au Conseil de sécurité de l'ONU, dont finalement le monde serait entre les mains de ces trois grands hommes-là.
Oui, alors effectivement, c'est une hypothèse parmi d'autres, mais nous devons avoir un regard nuancé, et cette idée paraît quand même peu probable. Qu'en pensez-vous ?
Un autre point aussi qui serait intéressant à aborder, c'est que quand on parle d'un candidat républicain, et si jamais un candidat républicain est élu à la présidence, c'est souvent une politique isolationniste et unilatérale qu'il va adopter face aux autres États, notamment l'Union européenne, même si aujourd'hui, on est tellement dans une économie qui est globalisée que les États-Unis ne peuvent pas raisonnablement s'isoler complètement et décider d'adopter un comportement qui irait à l'encontre des traités internationaux et commerciaux.
Tout à fait. D'une part, Vivek Ramaswamy, il n'est pas encore élu et on sait que Donald Trump, il a une avance assez considérable, une fois encore. Et de plus, il serait assez utopique de voir une alliance entre un pays comme les États-Unis, une alliance entre les États-Unis, la Russie et même la Chine. Historiquement, ce serait complètement
unique.
N'est-ce pas ?
Alors après, que ce soit utopique ou dystopique, je sais pas, mais surtout, j'espère que ça restera dans ton imagination, Antoine.
J'espère aussi.
Dystopique, unique, enfin bref, on vous laisse réagir et choisir votre camp. Antoine, Lamia, Manon, enfin, dites-nous ce que vous en pensez dans les onglets communauté. Vous pouvez aussi nous faire vos remarques à l'adresse email contact@legeopolitique.fr. On vous remercie de nous écouter et on se retrouve tout de suite pour la chronique d'Antoine. C'est un nouveau moment de notre émission du Géopolitique dans cette nouvelle saison. Une chronique, la première, celle d'Antoine, qui va nous parler de défense et de sécurité. Antoine, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de l'armée américaine. Et effectivement, il y a un lien fort avec ce que nous venons de discuter. La première question que j'ai à te poser, la voici. Pourquoi la défense américaine est au cœur de la campagne présidentielle de 2024 ?
Eh bien, Gauthier, l'armée américaine, en tant que l'une des forces militaires les plus puissantes au monde, joue un rôle central, bien sûr, dans la politique, la sécurité nationale et internationale des États-Unis. Et donc, dans la campagne présidentielle de 2024, plusieurs enjeux liés à cette armée américaine sont susceptibles de prendre une place prépondérante. D'abord, le budget de la défense sera l'une des principales questions, et notamment autour de ce qui concerne le budget de la défense. Les États-Unis dépensent la plupart de leur budget pour la défense, et en tout cas, plus que tout autre pays au monde. Et donc, les candidats, ils devront décider comment allouer ces ressources considérables entre les besoins de l'armée, mais aussi les programmes d'armement et d'autres priorités nationales, telles que l'éducation, la santé, les infrastructures. Ils devront également penser dans une perspective beaucoup plus lointaine de réadaptation stratégique. On voit bien que le monde a subi un changement géostratégique, avec un changement de point de bascule. Et on voit bien qu'on se déplace vers l'Indo-Pacifique. Et puis, bien sûr, ils devront également répondre aux nouvelles guerres. Les nouvelles guerres, on le voit bien sûr avec ce dossier tout nouveau là, chaud au Moyen-Orient avec Israël. Ils devront répondre au conflit en Ukraine et puis ils devront aussi répondre à la question de la menace terroriste, tout aussi finalement en réfléchissant aussi à la menace intérieure qui pèse sur leur territoire. Bien sûr, on pense aux migrations entre le Mexique et les États-Unis. Donc, on voit bien que c'est autant, en tout cas, de sujets qui vont être très importants dans cette campagne présidentielle. Et donc, la défense, en tout cas, elle est positionnée au centre de cette campagne, et la défense sous toutes ses composantes.
Effectivement. À la fois à l'extérieur, à l'intérieur, on aura compris. Alors ça, c'est pour ce qui est de la théorie, de tous les sujets qui vont être abordés en lien avec cette défense nationale, internationale, puisqu'on le rappelle, les États-Unis ont la première armée au monde, et il faut le souligner. Mais si on essaye d'être un petit peu plus concret, Antoine, est-ce que tu peux nous comparer cette défense américaine sur tous les plans avec, par exemple, la défense chinoise ou la défense française ?
Bien sûr. Alors tout d'abord, en termes de budget, on n'a pas encore donné de chiffres, mais le budget de la défense américaine, elle est estimée autour de 842 milliards de dollars. Hein, c'est 39% du total des dépenses militaires mondiales, hein, selon les données du CIPRI, hein, l'Institut National de Recherche sur la Paix de Stockholm. Donc les États-Unis sont de loin les plus gros dépenses du monde en la matière. Si on regarde la Chine, c'est 250 milliards de dollars, on voit qu'on est très loin. Et puis alors, on bascule encore plus loin quand on regarde la Russie, qui avec, si je me trompe pas, 60 milliards, et puis la France, 50 milliards. Donc on voit bien qu'on joue même plus dans la même catégorie en termes de dépenses. Ensuite, on le voit bien en termes d'hommes. En termes d'hommes, ils sont deuxièmes, les États-Unis. Attention, c'est la Chine qui est première. Bon, la Chine a un nombre d'habitants aussi très conséquent, puisque la Chine a 2 millions de personnel actif en 2019. Les États-Unis sont à 1,35 million, mais ils ont toutefois 800 000 réservistes. Les États-Unis, hein, ce sont 7 flottes en permanence qui sont sur les mers et sur les océans dans tout le monde. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent déployer leurs forces navales. Hein, ça, c'est historique, c'est jamais vu pour l'instant. Hein. Quand on compare les porte-avions, un porte-avions pour la Russie, un porte-avions pour la France, 11 porte-avions pour les États-Unis. Donc on voit bien qu'on est au-dessus. Ce sont 14 000 avions, hein, avions hélicoptères pour les États-Unis. Lorsqu'on regarde la Russie, ce sont 4 000. Hein. Donc on voit bien que l'armée américaine, finalement, on peut se le dire, c'est même pas une question de point de vue, d'opinion, etc. C'est un fait empirique. Elle ne joue pas dans la même catégorie que les autres en termes de matériel, et notamment grâce à ces dépenses très importantes qu'elle effectue pour la défense.
Effectivement, tu parlais au départ du pivot asiatique qui va pouvoir se réaliser très facilement quand on regarde le matériel qui est à disposition de cette armée-là. Et puis, l'armée américaine, en fait, elle est forte un petit peu sur tous les plans. Et défensivement parlant, les USA ont une autre force majeure. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Bien sûr, les États-Unis, c'est aussi des services de renseignement très puissants. Des services de renseignement qui sont créés dans un objectif de guerre froide en 1947 avec la CIA. Ces services de renseignement, ils sont très très performants, tellement performants. Alors là, il va falloir contrebalancer qu'ils ont été capables de prédire l'invasion russe en Ukraine au jour près. Malheureusement, ils n'ont pas pu, nous ne savons pour quelle raison ici, ce sont tellement des secrets d'État, mais ils n'ont pu en tout cas vraisemblablement en alerter les autorités ukrainiennes, puisqu'on voit bien qu'en tout cas l'invasion russe a très vite démarré. Elle semble s'enliser aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont des services de renseignement très performants et qui vont être très importants dans l'avenir. Hein. Et justement, ça devra faire partie du débat de la campagne présidentielle parce qu'on est en train de rentrer dans une décennie, et cela va aller que s'accroissant. Finalement, dans le futur, on est rentré dans une décennie de cyberguerre. Et donc finalement, ces services de renseignement, ils auront une place majeure à jouer, et donc finalement ça fera aussi partie de cette défense, d'une composante de la défense. Vous avez bien sûr l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de la marine, mais vous aurez surtout ces services de renseignement très puissants aux États-Unis, nés dans un contexte. Ils avaient, comme dans beaucoup de domaines, un temps d'avance qui leur permet d'avoir des services de renseignement surpuissants.
C'est très bien résumé. Merci Antoine pour cette chronique qui, je l'espère, va vous intéresser, vous derrière votre écran. On va continuer notre émission en discutant cette fois-ci d'éco-populisme. Restez branchés. Second thème de notre épisode, l'écopopulisme peut-il déstabiliser les prémices d'alliances climatiques ? On va donc parler d'écologie en le liant au populisme. C'est une nouvelle notion, ça s'appelle l'écopopulisme et c'est Manon qui va vous le présenter.
Tout à fait. Alors d'une part, pourquoi on parle d'éco-populisme sur notre émission d'aujourd'hui ? Ça a à voir avec ce qui s'est passé récemment avec Laurent Wauquiez qui a retiré sa région de la ZAN. Qu'est-ce que c'est la ZAN ? C'est une mesure qui vise à stopper l'artificialisation des sols d'ici 2050. Et donc Laurent Wauquiez, tout d'abord, qui est-ce ? Donc Laurent Wauquiez, c'est d'abord le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce fut également le président des Républicains jusqu'en 2019. Et il fut également ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2012. Pardon. Gauthier ?
Oui, effectivement, il a un CV un petit peu plus long que le nôtre. Hein. On peut résumer comme ça. Alors, si on vous parle d'écopopulisme aujourd'hui, ben en fait, c'est pour vous présenter les dangers que peut représenter l'écopopulisme. On va donc créer un premier lien avec ce que nous vous avons raconté tout à l'heure. Eh bien, on va expliquer pourquoi l'écopopulisme, eh bien, c'est du populisme. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de populisme ici ? Eh bien, ça va être le fait que lorsqu'on présente un discours écopopuliste, eh bien, on va essayer de plaire à une certaine population sans qu'il y ait réellement de fond politique. Dans le cas de Laurent Wauquiez, eh bien, il va essayer de monter la population française plutôt rurale contre les politiques écologiques qui sont menées pour leur expliquer que ça les défavorise très largement. Ces personnes-là adhèrent à ce discours, eh bien, elles vont être contre le discours écologique. Et donc, elles ne vont pas permettre à ces politiques d'être appliquées. Bien évidemment, un discours écopopuliste, ça va avoir un risque important face à l'urgence climatique. Il se trouve que les différents accords qui sont signés ces dernières années pourraient être mis à mal si jamais l'écopopulisme devenait très important en Europe. Il se trouve que ce n'est pas impossible, avec notamment les élections européennes qui vont arriver en mai 2024. Il y a cependant un paradoxe dans ce discours écopopuliste qu'il faut souligner, un paradoxe entre Laurent Wauquiez et son propre parti politique.
Alors oui, Gauthier, tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est un paradoxe ? D'une part, puisque Laurent Wauquiez retire la région donc Rhône-Alpes de cette loi ZAN, qui est la loi concernant la non-artificialisation des sols. Mais cela, c'est étant en désaccord avec son propre parti, puisque cette loi, elle a été adoptée à l'Assemblée et presque à l'unanimité. Donc cela est un complet non-sens. D'autre part, c'est dangereux puisque ce discours, il va probablement résonner dans les classes populaires puisque ce sont eux qui sont dans un premier temps touchés par les inégalités liées au changement climatique puisque ce sont c'est cette part de la population qui utilise par exemple davantage sa voiture pour se transporter. On a aussi des populations qui sont plus touchées par rapport à l'énergie. Donc c'est très dangereux la posture de Laurent Wauquiez.
Ouais, de Laurent Wauquiez, exactement. Il va falloir, pour terminer notre épisode, eh bien, essayer de voir en quoi l'écopopulisme, le discours écopopuliste, pourrait avoir des impacts négatifs sur les accords et sur les prémices des accords climatiques, alliances climatiques que nous avons, notamment avec, en 2015, la signature historique des accords de Paris. On se rappelle, la quasi-totalité des membres de l'Organisation des Nations Unies et des COP qui avaient signé cet accord visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de ne pas dépasser la barre des 1,5 degrés d'augmentation de la température globale sur la planète Terre. Il se trouve donc qu'avec un discours écopopuliste, les accords de Paris pourraient être mis en danger. Lamia, tu souhaites nous en parler?
Oui, alors moi je souhaitais juste mentionner quelque chose. Étant donné que le populisme s'adresse d'abord au peuple, on peut espérer que les accords, étant donné qu'ils sont signés d'abord par les élites politiques, ne soient pas directement concernés par un retournement dans l'opinion publique qui serait davantage en faveur... Qui viendrait pardon des sociétés rurales et qui ne serait justement pas en faveur de toutes ces mesures écologiques.
Oui, effectivement. Alors après, si on se met dans la position de l'avocat du diable, on pourrait dire que si les nouveaux dirigeants de nos pays sont écopopulistes, eh bien ils pourraient, pour plaire au peuple justement, se retirer des accords de Paris comme l'a pu le faire Donald Trump lorsqu'il a été élu.
Bon, je me fais moi-même encore l'avocat du diable, mais dans ce cas-là, on parle d'une élection à l'échelle de la présidence et dans ce cas, on peut... Même si ça s'est fait aux États-Unis, hein, tu pourras me le dire, Gauthier, on peut espérer aussi que le futur président français ou la présidente française ne soit pas populiste dans la mesure où elle est élue par l'ensemble d'un électorat et qu'elle ne concerne pas, c'est pas la même échelle qu'à ce niveau-là où ça concerne uniquement les habitants d'une région.
Oui, et puis il y aurait vraiment une grande ambiguïté puisque ces accords de Paris, bah, comme son nom l'indique, ils ont été signés en France. Donc ça serait quand même particulièrement ambigu que le chef de l'État français retire le pays cet accord a été signé de ces accords. Moi, je voulais juste revenir deux minutes sur... Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, effectivement, a pris une mesure, a énoncé cette mesure de retirer sa région. Beaucoup de constitutionnalistes ont dit qu'effectivement, de toute façon, juridiquement, c'était impossible, puisqu'il y a une hiérarchie des lois qui s'effectue. Et lorsqu'une loi est votée au niveau national, eh bien, de toute façon, les régions qui sont un statut juridique en dessous seront obligées de l'appliquer, d'une part. Puis Laurent Wauquiez a pris cette décision, effectivement, pour plaire à un électorat plutôt rural, surtout pour critiquer cette technocratie, on a l'habitude maintenant de dire ça, parisienne. Et effectivement, lui s'est rendu compte que dans sa région, c'est pour nuancer un peu vos propos, il s'est rendu compte que dans sa région, qui est un peu rurale, hein, on retrouve des départements comme le Cantal, comme la Haute-Loire, comme le Puy-de-Dôme, il s'est rendu compte qu'effectivement, des permis de construire, par exemple, pouvaient, si cette loi venait être mise en place à 100%, pouvaient être refusés. Donc il a aussi mis un argument sur la table, qu'on pourrait discuter beaucoup plus longuement, mais en tout cas qui est un argument dans son retirement, en tout cas de cette loi.
Merci Antoine, on sent que les origines ont parlé. Lamia, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, alors sans faire de parallélisme dangereux entre les Républicains et le Front National, le Rassemblement National, ça me rappelle ce qu'avait dit Marine Le Pen, il me semble, aux dernières élections présidentielles, en déplorant les conséquences que les nouvelles mesures écologiques avaient sur les populations rurales, notamment sur leur mode de transport, puisqu'on leur imposait des nouvelles normes à ne pas dépasser pour leurs véhicules qui, étant généralement plutôt anciens, polluaient davantage. Donc je trouvais ça intéressant de rappeler, étant donné qu'on peut aussi inscrire Marine Le Pen, je pense, dans cette dynamique de populisme.
Néanmoins, moi je pense qu'il faut quand même faire attention, puisque aux États-Unis, on a quand même une population qui est beaucoup plus climato-sceptique qu'en France, d'une part, et d'autre part, on a quand même une population en France qui est, parce qu'elle est la population rurale, de par sa ruralité, se rend... compte des problèmes climatiques et de par le fait qu'elle soit exposée à ceci, elle est sensible à ces problèmes. Et de ce point de vue-là, le populisme peut peut-être être inefficace.
Merci d'avoir participé à cette discussion qui, je le rappelle, s'intitule « L'écopopulisme peut-il déstabiliser les prémices d'alliances climatiques ?» Nous nous sommes inspirés d'une première discussion qui avait eu lieu sur le plateau de 28 minutes que vous retrouvez en description de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté ce débat-là, cette discussion-là. On se retrouve tout de suite pour la chronique de Lamia qui va nous parler des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. N'hésitez pas à participer dans les onglets communauté et à réagir à ce dont nous avons discuté.
L'émission continue avec la seconde chronique, qui est celle de Lamia, donc la grande réorientation. C'est en effet tout à fait en lien avec le sujet du jour. Lamia, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais vous parler des relations diplomatiques et économiques qu'entretient l'Arabie Saoudite, avec deux États en particulier.
Ok, très bien. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire un historique des relations américano-saoudiennes ?
Ok, alors je vais commencer par ça, effectivement, tu as raison Manon. Alors, les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ce qu'il faut savoir, je pense avant tout, c'est qu'elles sont relativement anciennes. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de choses d'ailleurs, avec le fameux pacte de Quincy, qui est signé sur l'eau, sur l'USS Quincy, au large de la ville de Jeddah, en Arabie Saoudite. Et ce pacte, il va... acter la protection militaire des États-Unis en échange, pour parler très concrètement, du pétrole de l'Arabie Saoudite.
Très bien. Et donc, est-ce que c'est une belle histoire qui semble commencer ? Mais est-ce que ça va durer, cette relation ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une alliance qui est très stratégique, avant de parler de la continuité. C'est-à-dire que les États-Unis, à ce moment-là, on est en 1945, ils n'ont pas encore d'alliés dans cette région qui est en plein essor. Aujourd'hui, leur principal allié, c'est évidemment Israël. Mais en 1945, Israël n'est pas encore créé, puisque ça s'est fait en 1948. Et donc, Franklin Delano Roosevelt va signer avec Ibn Saoud la sanctuarisation sécuritaire de l'État arabe, qui est l'Arabie Saoudite, et bien sûr la sanctuarisation énergétique de la production pétrolière saoudienne au profit des États-Unis. Et ensuite, effectivement, on peut parler d'une belle histoire. Alors, belle histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, une histoire qui commence avec des hauts et des bas, puisque cette relation va être très vite renforcée et explicitée par le président Carter, qui déclare que, je cite, une tentative de toute force extérieure de prendre le contrôle de la région du Golfe Persique sera considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique, et un tel assaut sera repoussé par tous les moyens nécessaires, y compris la force militaire. C'est donc un message qui est assez fort. Et puis idem au début des années 90 avec la fameuse première guerre du Golfe entre 90 et 91, une guerre multilatérale menée sous l'égide de l'ONU envers l'Irak de Saddam Hussein, on le rappelle, hein, pour libérer le petit émirat du Koweït. Les États-Unis sont très largement soutenus par une coalition internationale et notamment par l'Arabie Saoudite, de peur que l'Irak, une fois le Koweït annexé, ne s'attaque aux intérêts saoudiens.
Et donc y a-t-il seulement des effets positifs à cette alliance ?
Eh bien non. Il y a aussi des bas. On peut parler du tristement célèbre attentat des Tours Jumelles qui fait foi ici, puisque suite à cet événement, on s'est rendu compte que sur les 19 kamikazes impliqués dans cet attentat suicide, il y en avait 15 qui étaient saoudiens. Mais finalement, pas de rupture majeure suite à cet événement, et les relations se sont lissées au fil des années, même si il faut mentionner qu'aujourd'hui, donc si les relations elles étaient plutôt basées sur cette interdépendance pétrolière, le mix énergétique américain dépend de moins en moins des réserves saoudiennes, et c'est notamment dû à une grande richesse nationale avec le gaz de schiste et puis même le pétrole qui vient du territoire américain. Et c'est depuis la présidence de Donald Trump que cette alliance est remise à l'ordre du jour. On se rappelle notamment que la première visite d'État de Donald Trump traditionnellement, la première visite du président américain se faisait plutôt au Mexique. Et bien, celle de Donald Trump, elle s'est faite en Arabie Saoudite le 20 mai 2017. Trump débarque à Riyad et négocie un accord de près de 100 milliards d'euros au bénéfice de Washington concernant l'armement.
Et donc, ok, on parle de Donald Trump, et donc peut-être qu'on peut faire un lien avec le sujet du jour. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur l'Arabie Saoudite et le populisme, par exemple ?
Eh bien oui, effectivement, je pense qu'on peut... on serait tous d'accord pour qualifier Donald Trump de populiste. Et puis, on peut mentionner, pour aller dans ce sens, sa versatilité, par exemple, vis-à-vis de ses électeurs et du discours qu'il tient, puisque quelques mois avant son mandat, il s'adressait encore à l'Arabie Saoudite comme, ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les siens, une vache à lait dont il fallait traire le lait le plus vite possible avant de s'extirper de la région. Un discours donc utilitariste et même vulgaire, puisque le lait ici, c'est évidemment le pétrole, l'or noir saoudien. Finalement, les experts ne se sont pas attardés davantage à analyser ce changement d'attitude radical, étant donné que la présidence de Trump restera normalement une exception de l'histoire américaine.
Mais si la présidence de Trump n'a pas posé de véritables problèmes sur cette relation américano-saoudienne, y a-t-il d'autres problèmes ? On peut par exemple citer la guerre en Ukraine.
Effectivement, on revient toujours à ça, j'ai l'impression, puisque depuis quelques années, on a... Vous le savez, des mutations géopolitiques qui se font de plus en plus nombreuses. Et suite aux nombreuses sanctions économiques qui ont été imposées par les pays occidentaux à la Russie au cours de l'année 2022, on a en fait reproché à l'Arabie Saoudite, une attitude défiante à l'égard de son allié américain, puisque Riyad est évidemment imposé en tant qu'État emblématique et très influent de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et Riyad est accusé d'avoir largement contribué à la baisse des quotas de production de pétrole, ce qui a mécaniquement entraîné l'augmentation du prix du baril, à un moment où l'Europe occidentale connaissait de grandes difficultés d'approvisionnement énergétique.
On a donc la Russie qui pose un problème de concurrence dans cette relation. Est-ce qu'on pourrait citer un autre pays ?
Alors, effectivement, mis à part cette anecdote avec la Russie, l'Arabie Saoudite se rapproche de plus en plus d'un autre pays, comme tu le dis, Manon, qui est la Chine, on peut rappeler par exemple la visite de Xi Jinping à Riyad en décembre 2022, une visite qui s'est faite en grande pompe. Hein. Sur les images, on pouvait voir des drapeaux rouges et verts qui s'entremêlaient, et puis l'avion donc de Xi Jinping qui a été escorté par des avions de chasse à partir de l'espace aérien saoudien. Une arrivée pleine de faste qui a notamment fait parler sur le plan médiatique. Concrètement, c'est une initiative qui visait sans doute à faire réagir davantage du côté américain, puisque bon, comme on l'a évoqué plus tôt dans l'épisode, les relations entre l'Amérique et la Chine ne sont pas toutes lisses, mais je pense qu'on peut aussi y voir donc un intérêt évidemment croissant de l'appétit chinois pour ces pays du Golfe, et puis une réponse de l'Arabie Saoudite au bashing constant des médias occidentaux envers la monarchie saoudienne, accusée d'énormément de maux, qui se tournent donc maintenant vers l'Est et vers la Chine.
Et donc stratégiquement, concrètement, qu'est-ce que ça donne ?
Alors concrètement et stratégiquement donc, je pense qu'on a une vision une ambition même commune de projection géopolitique vers un avenir qu'on pourrait qualifier de dominant, puisqu'on peut comparer ici le fameux rêve chinois de 2049 du Parti pour célébrer le centenaire du Parti communiste chinois, et le projet de la vision saoudienne de 2030, un projet voilà, qui ambitionne de nouvelles infrastructures et qui vise notamment à redynamiser le secteur touristique, et c'est un des grands chantiers de l'Arabie Saoudite en ce moment. Et puis surtout, puisque la Chine est le principal importateur de pétrole, c'est un pays qui est gourmand en énergie, et c'est notamment dû à sa forte population, mais aussi à ses industries, et donc s'allier avec le pays qui possède près de 15% des réserves mondiales représente sûrement un enjeu de coopération économique de taille. Et maintenant encore plus, puisque nous avons appris l'arrivée de l'Arabie Saoudite au sein des BRICS à partir de janvier 2024. Et puis un dernier avantage qu'on pourrait mentionner pour la Chine, ce serait sûrement un terrain plus large d'exportation de ses produits, notamment technologique, pourquoi pas dans la région du Proche et du Moyen-Orient, ce qui serait en concurrence directe avec les produits occidentaux.
Très bien, on a donc un Moyen-Orient qui, à travers l'Arabie Saoudite, pourrait devenir l'épicentre de la géopolitique mondiale, puisque non seulement l'Arabie Saoudite va devenir membre des BRICS, mais il y a aussi les Émirats Arabes Unis. Et on peut également dire ça, puisque c'est d'autant plus actuel avec la crise israélienne.
Évidemment, alors bon, l'Arabie Saoudite, certes, on a effectivement, comme tu l'as mentionné, des nombreux pays qui s'imposent de plus en plus, que ce soit sur la scène médiatique ou politique, comme les Émirats ou encore le Qatar l'année dernière. Et puis au moment même où nous parlons, il se déroule un conflit dont la portée géopolitique et surtout humanitaire s'annonce déjà très grande. Il s'agit d'un énième, mais pas des moindres, regain de tension entre Israël et la Palestine suite aux milliers de roquettes du groupe, il faut le rappeler, islamiste et terroriste du Hamas, qui se sont abattus en Israël. L'opération s'appelle donc le déluge d'Al-Aqsa, du nom de la plus grande mosquée de Jérusalem, prise régulièrement comme le symbole de la résistance palestinienne.
très bien Labia, donc on va garder un œil sur ce Moyen-Orient. On a hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite de ta chronique pour un nouveau sujet.
Le Géopolitique, c'est terminé pour ce premier épisode de la saison 3. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, nous, on s'est beaucoup amusés. On a parlé du populisme sur toutes ses formes, de l'écopopulisme jusqu'aux élections présidentielles de 2024. On a discuté du Grand Moyen-Orient avec Lamia. Nous avons discuté de la défense avec Antoine. Le Géopolitique, c'est terminé pour aujourd'hui.
Et on vous retrouve la semaine prochaine à 9h le lundi, comme toutes les semaines. Si vous voulez nous contacter, ce sera contact@legeopolitique.fr. Vous pouvez écouter notre émission sur Spotify, Deezer, Apple Play et toutes les plateformes. On a très hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
En tout cas, on était ravis de vous retrouver pour Antoine et ma part. Et puis, n'oubliez pas de retrouver la chronique très dynamique d'Antoine la semaine prochaine, Hard Power.
Et vous voulez que je vous fasse une confidence ? J'adorais écouter ce plateau, j'adore apprendre. Et donc, j'aurai hâte de retrouver la chronique de Lamia la semaine prochaine, la grande réorientation.
Merci Antoine, merci Lamia, merci Manon, merci moi-même, hein, il faut le faire, personne ne me le dira. Sinon, allez, je me tais, c'est fini pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. And it makes you feel so distant. With such a